There is a humanitarian and security crisis on our southern border that requires urgent action.
C'était la déclaration du président Trump. Il nous avait déjà averti hier qu'il allait prendre la parole et faire une offre pour dénouer l'impasse qui touche le gouvernement américain. On va aller rejoindre Valérie Beaudoin, notre collègue chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, en direct de Chicago. Salut Valérie.
Oui, bonjour Mathieu.
Que fous-tu à Chicago présentement ce dimanche matin?
Je suis prise dans la tempête qui touche les États-Unis, qui va vous toucher ou qui vous touche actuellement.
Elle nous touche.
Hier soir.
Elle nous touche directement.
Hier soir, je suis prise.
Bon, excellent. Donc, tu prendras la route, tu seras de retour bientôt. On entendait donc la déclaration de Donald Trump en lien avec cette impasse gouvernementale, le fameux shutdown qui perdure maintenant. Visiblement, son offre n'a pas fait le bonheur. Il avait commencé à parler, déjà, les démocrates avaient dit qu'ils s'attendaient pas à donner suite à ça.
Exactement. Bon, 30e journée déjà du shutdown. On sait qu'on a déjà battu le record. C'est le plus long de toute l'histoire des États-Unis, de l'histoire récente. Et ça semble pas prêt, Mathieu, de se terminer. On voit vraiment que les deux côtés sont campés dans leur position. Et que Nancy Pelosi, qui est la leader démocrate, avait déjà dit non sur Twitter, comme tu l'as mentionné, avant même qu'elle parle. Alors, bon, ça aide pas vraiment aux négociations. Ce qu'il a dit Donald Trump dans un discours, je dirais qu'il était assez présidentiel. On avait le droit au Trump télésouffleur, comme je l'appelle. Il a parlé de l'exploitation des femmes, des enfants qui doivent traverser plusieurs pays pour se rendre aux États-Unis, des criminels qui viennent ici et du fameux mur qui pourrait régler tout ça, qui pourrait réduire la criminalité qu'il dit jusqu'à 50%. Alors quand même, et je vais vous laisser entendre un extrait avant d'aller plus loin avec la proposition parce que c'était le ton de Trump qui se voulait un ton réconciliateur avec les démocrates. Je vous laisse entendre.
Both sides in Washington must simply come together, listen to each other, put down their armor, build trust, reach across the aisle, and find solutions. It is time to reclaim our future from the extreme voices who fear compromise and demand open borders, which means drugs pouring in, human trafficking, and a lot of crime.
Ouais.
Il met la partisanerie de côté, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté.
Mais visiblement, le président justement, là, il fait lui une condition, c'est si tu as un mur, ça règle le problème. S'il n'y a pas de mur, ben, ça veut dire que ça rentre à pleine porte. Mais là, les démocrates, eux, ne veulent rien savoir de ça. Ils présentent quoi en échange?
Oui, bon, alors Trump, qu'est-ce qu'il présente, lui, dans le détail? C'est 800 millions d'aides humanitaires d'urgence, 800 millions, non, c'est ça, pour équiper en détection de drogue à la frontière, parce que c'est vraiment le problème, plus de juges pour aider les dossiers d'immigration. Ça, c'est une super bonne nouvelle, c'est ce que les démocrates veulent aussi. Mais ce qu'il propose, et ce qui est intelligent là-dedans, c'est qu'il donne un os un peu aux démocrates, c'est les fameux Dreamers. Le statut des Dreamers, on se rappelle, c'est des gens qui ont été protégés sous Barack Obama, des enfants de migrants illégaux qui sont arrivés ici. On leur a donné la possibilité de servir dans l'armée, d'étudier aussi aux États-Unis et d'éventuellement avoir la citoyenneté. Bon, il avait menacé de retirer ce statut-là. Alors, il dit, je vais vous donner un sursis de 3 ans et ça pourrait peut-être vous aider. Donnez-moi seulement le 5 milliards pour mon mur et on va les protéger et des gens au statut temporaire. Ça plaît pas. On dit que non, c'est pas assez, qu'on a déjà fait ces propositions-là et qu'on veut rien savoir. Du côté des démocrates, on a proposé 1 milliard de dollars pour sécuriser la frontière, mais 0 sous pour le mur de Trump et qu'on voulait aider les agents au service frontalier là-bas. Mais vraiment, on n'est pas encore dans la négociation parce que si Trump bouge de son mur, il va vraiment irriter sa base qui n'est pas contente et qui devient impatiente.
Hey, parle-moi de cette histoire qui a fait réagir pas mal encore aujourd'hui dans les quotidiens américains concernant ces jeunes d'une église catholique, d'une école du système catholique. Là, ce sont des chrétiens assez fondamentaux, faut le dire, qui étaient à une marche contre l'avortement et qui ont confronté un ancien combattant autochtone pour le ridiculiser. Ça a vraiment pas passé. L'école a dû fournir des excuses publiques au monsieur en question.
Ah oui, la vidéo de de l'histoire circulent sur les réseaux sociaux depuis hier et ça choque vraiment parce qu'on voit des jeunes adolescents avec la casquette rouge « Make America Great Again » sourire, encercler la personne qui est assez âgée, qui fait un chant cérémonial avec un tambour. Et là, on l'encercle et on crie « Construisons le mur ». Bon, premièrement, il n'y a pas de lien du tout entre les Premières Nations et construire le mur. Je comprends pas exactement pourquoi ça a été dit, mais vraiment, c'est de l'intimidation et ça a été décrié partout. Et là, une école pour garçons catholiques qui est près de Cincinnati dit « Ben écoutez, ça n'a pas de bon sens, pas dans les valeurs chrétiennes de faire ça, d'intimider. On doit au contraire respecter tout le monde. Le racisme, c'est pas acceptable, mais vraiment, on dit que ces jeunes-là vont être pénalisés, vont peut-être être expulsés, et les gens attendent des punitions pour ces jeunes, vraiment, qui ont manqué carrément de respect pour cet homme-là, là, qui est un vétéran du Vietnam, qui rend hommage aux soldats au cimetière d'Arlington en Virginie. Donc, vraiment, c'était assez triste à voir.
Et juste pour ajouter à l'affaire, c'est que pendant qu'ils font le chant, t'as des gens qui crient justement « Construisons le mur », et t'as des gens qui parallèlement font le bruit, le chant du Tomahawk Chuck des Braves d'Atlanta dans les années 90, alors que l'équipe allait très loin en faisant le « oh, 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 oh » pour ridiculiser le gars qui fait justement un chant cérémonial. Et à peu près, il y en a un qui se pointe à peu près 4 pouces de son visage juste pour tenter de l'écœurer. Je peux dire que c'est pas très édifiant. Parlant de pas très édifiant, BuzzFeed qui s'est fait taper sur la tête par Robert Mueller et son équipe, pour avoir sorti une histoire qui, semble-t-il, n'avait pas beaucoup de fondement.
Oui, exactement. BuzzFeed qui a dit que Trump avait demandé explicitement à Michael Cohen de mentir, là, son ancien avocat, son ancien homme de main, de mentir devant le Congrès sur son projet de tour à Moscou, là, la fameuse tour qu'il voulait construire et qu'il aurait continué de négocier pendant qu'il était nommé président. Bon, alors ce qu'on dit, et Robert Mueller, on le sait, là, il est muet, son équipe, il n'y a rien qui sort, qui transparaît de son enquête, a fait quand même une déclaration en disant « Mais écoutez, les informations là, qui sont données sont inexactes parce qu'on dit que c'est de l'information qui provient de l'équipe de Robert Mueller. Alors, est-ce qu'il y a un fondement, mais qu'on n'a pas donné toute l'information correctement? On le sait pas, mais chose certaine, c'était assez important pour que l'équipe de Robert Mueller dise « Écoutez, BuzzFeed, là, peut-être reculez un peu sur votre histoire. Ça n'a pas les fondements que vous dites que ça l'a. Alors, reculez. » Et ça fait bien sûr plaisir au président Trump qui, pour une fois, semblait d'accord avec l'équipe de Robert Mueller.
Ouais. Et parle-nous de la marche des femmes qui a été organisée dans la controverse. On sait que ça avait drainé des millions de personnes la première fois. C'est un peu moins populaire que c'était, par contre.
Oui, j'y étais pour la première fois après l'élection de Donald Trump. Vraiment, c'était un mouvement, là, on sentait une espèce de révolution chez les femmes, chez certaines minorités. Et là, c'est dans la controverse parce que celle qui organise la marche, qui est à l'origine du mouvement de la marche des femmes de New York, a appuyé quelqu'un qui a des propos antisémites. Et ça, ça a vraiment pas passé. On s'est pas excusé assez rapidement. On n'a pas fait un retrait de ces propos-là assez rapidement. Et ce que ça a fait, Mathieu, c'est qu'on a divisé les marches. Par exemple, à Philadelphie, à New York, qui sont quand même des centres vraiment progressistes où on fait plusieurs marches de ce genre-là, il y a eu 2 marches pour les femmes. Alors, on a vraiment divisé le mouvement. Et les journalistes qui étaient sur place, ce qui était assez particulier, c'est qu'ils demandaient aux femmes, ils interrogeaient en disant, ben, vous êtes dans quelle marche ou pourquoi vous avez choisi celle-là? Et elles ne savaient pas du tout pourquoi elles avaient fait ce choix-là d'aller à une ou à l'autre. Et ça a vraiment divisé le mouvement, ça. Ça a le fait qu'on n'avait pas le même impact qu'on avait par le passé. Et pourtant, on est encore dans l'après-mouvement MeToo, dans l'après-Brett Kavanaugh, dans le fait qu'il y a un record de femmes au Congrès américain. Donc, on aurait pensé que le mouvement n'allait pas s'essouffler, mais au contraire, continuer. Donc, ça l'a déçu, bien sûr, les organisatrices de ce mouvement-là.
Merci beaucoup, Valérie. Bon retour.
Merci, Mathieu.
Au revoir. Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis, de la chaire Raoul Dandurand. Un mot pour vous mentionner les conditions routières ce matin. C'est vraiment plus difficile là, dans plusieurs secteurs au sud du Saint-Laurent. Visibilité nulle, les chaussées couvertes pour tout ce qui est les pourtours là, de la Montérégie. Vraiment, le Saint-Jean-sur-Richelieu, même une partie de la rive sud. L'autoroute des Cantons de l'Est également, tout le secteur Sherbrooke-Magog, visibilité nulle par endroit. C'est le cas également sur l'autoroute 40 à proximité de l'autoroute qui la route 131 vers Joliette. Soyez extrêmement prudents. On a des billets pour le Salon de l'Auto à vous offrir tantôt.